Livre 3, chapitre 1, grand 1. Les êtres sacrés sont, par définition, des êtres séparés. Ce qui les caractérise, c'est que, entre eux et les êtres profanes, il y a une solution de continuité. Normalement, les uns sont en dehors des autres. Tout un ensemble de rites a pour objet de réaliser cet état de séparation, qui est essentiel. Puisqu'ils ont pour fonction de prévenir les mélanges et les rapprochements indus, d'empêcher qu'un de ces deux domaines n'empiète sur l'autre, ils ne peuvent édicter que des abstentions, c'est-à-dire des actes négatifs. Pour cette raison, nous proposons d'appeler culte négatif le système formé par ces rites spéciaux. Ils ne prescrivent pas aux fidèles d'accomplir des prestations effectives, mais se bornent à lui interdire certaines façons d'agir. Ils prennent donc tous la forme de l'interdit, ou comme on dit couramment en ethnographie, du tabou. Ce dernier mot est celui qui est employé dans les langues polynésiennes pour désigner l'institution en vertu de laquelle certaines choses sont retirées de l'usage commun. C'est aussi un adjectif qui exprime le caractère distinctif de ces sortes de choses. Nous avons eu déjà l'occasion de montrer combien il est fâcheux de transformer ainsi, en un terme générique, une expression étroitement locale et dialectale. Il n'y a pas de religion où il n'existe des interdictions et où elles ne jouent un rôle considérable. Il est donc regrettable que la terminologie consacrée paraisse faire d'une institution aussi universelle une particularité propre à la Polynésie. L'expression d'interdit ou d'interdiction nous paraît de beaucoup préférable. Cependant, le mot de tabou, comme celui de totem, est tellement usité qu'il y aurait un excès de purisme à le prohiber systématiquement. Les inconvénients qu'il présente sont d'ailleurs atténués, une fois qu'on a pris le soin d'en préciser le sens et la portée. Mais il y a des interdits d'espèces différentes, et qu'il importe de distinguer, car nous n'avons pas à traiter, dans le présent chapitre, de toutes les sortes d'interdits. Tout d'abord, en dehors de ceux qui relèvent de la religion, il en est qui ressortissent à la magie. Les uns et les autres ont ceci de commun qu'ils édictent des incompatibilités entre certaines choses, et prescrivent de séparer les choses ainsi déclarées incompatibles. Mais il y a entre eux de très graves différences. D'abord, les sanctions ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Sans doute, comme nous le dirons plus loin, la violation des interdits religieux passe souvent pour déterminer mécaniquement des désordres matériels dont le coupable est censé pâtir et qui sont considérés comme une sanction de son acte. Mais alors même qu'elle se produit réellement, cette sanction spontanée et automatique ne reste pas la seule. Elle est toujours complétée par une autre, qui suppose une intervention humaine. Ou bien une peine proprement dite s'y rajoute, quand elle ne l'anticipe pas, et cette peine est délibérément infligée par les hommes. Ou tout au moins, il y a blâme, réprobation publique. Alors même que le sacrilège a été comme puni par la maladie ou la mort naturelle de son auteur, il est de plus flétri. Il offense l'opinion qui réagit contre lui. Il met celui qui l'a commis en état de faute. Au contraire, l'interdiction magique n'est sanctionnée que par les conséquences matérielles qu'est censé produire avec une sorte de nécessité physique l'acte interdit. En désobéissant, on court des risques, comme ceux auxquels s'expose un malade qui ne suit pas les avis de son médecin. Mais la désobéissance, dans ce cas, ne constitue pas une faute, elle n'indigne pas. Il n'y a pas de péché magique. Cette différence dans les sanctions tient, d'ailleurs, à une différence profonde dans la nature des interdits. L'interdit religieux implique nécessairement la notion de sacré. Il vient du respect que l'objet sacré inspire et il a pour but d'empêcher qu'il soit manqué à ce respect. Au contraire, les interdits magiques ne supposent que la notion, toute laïque, de propriété. Les choses que le magicien recommande de tenir séparées sont celles qui, en raison de leur propriété caractéristique, ne peuvent être mêlées ou rapprochées sans danger. Si même il lui arrive d'inviter ses clients à se tenir à distance de certaines choses sacrées, ce n'est pas par respect pour elles et de peur qu'elles ne soient profanées, car la magie, nous le savons, vit de profanation. C'est uniquement pour des raisons d'utilité temporelle. En un mot, les interdits religieux sont des impératifs catégoriques. Les autres sont des maximes utilitaires, première forme des interdits hygiéniques et médicaux. On ne peut, sans confusion, étudier simultanément et sous un même nom deux ordres de faits aussi différents. Nous n'avons à nous occuper ici que des interdictions religieuses. Mais entre ces dernières, elles-mêmes, une nouvelle distinction est nécessaire. Il y a des interdits religieux qui ont pour objet de séparer, les unes des autres, des choses sacrées d'espèces différentes. On se rappelle, par exemple, comment, chez les Wakelbura, l'échafaud sur lequel le mort est exposé doit être exclusivement construit avec des matériaux qui ressortissent à la fratrie du défunt. C'est dire que tout contact est interdit entre le mort, qui est sacré, et les choses de l'autre fratrie, qui sont sacrées, elles aussi, mais à des titres différents. Ailleurs, les armes dont on se sert pour chasser un animal ne doivent pas être faites d'un bois qui soit classé dans le même groupe social que l'animal lui-même. Mais les plus importantes de ces interdictions sont celles que nous étudierons dans un prochain chapitre. Elles sont destinées à prévenir toute communication entre le sacré pur et le sacré impur, entre le sacré faste et le sacré néfaste. Tous ces interdits ont une commune caractéristique. Ils viennent, non de ce qu'il y a des choses sacrées et d'autres qui ne le sont pas, mais de ce qu'entre les choses sacrées, il existe des rapports de disconvenance et d'incompatibilité. Ils ne tiennent donc pas à ce qu'il y a d'essentiel dans l'idée du sacré. Aussi, l'observance de ces prohibitions ne peut-elle donner lieu qu'à des rites isolés, particuliers et presque exceptionnels. Mais elle ne saurait constituer un culte proprement dit, car un culte est fait, avant tout, de rapports réguliers entre le profane et le sacré comme tel. Mais il existe un autre système d'interdiction religieuse, beaucoup plus étendu et plus important. C'est celui qui sépare, non des espèces différentes de choses sacrées, mais tout ce qui est sacré d'avec tout ce qui est profane. Il dérive donc immédiatement de la notion même du sacré qu'il se borne à exprimer et à réaliser. Aussi fournit-il la matière d'un véritable culte, et même d'un culte qui est à la base de tous les autres, car l'attitude qu'il prescrit est celle dont le fidèle ne doit jamais se départir, dans ses rapports avec les êtres sacrés. C'est ce que nous appelons le culte négatif. On peut donc dire de ces interdits qu'ils sont les interdits religieux par excellence. C'est d'eux seuls qu'il sera question dans les pages qui vont suivre. Mais ils prennent des formes multiples. Voici les types principaux que l'on observe en Australie. Avant tout, il y a des interdits de contact. Ce sont les tabous primaires dont les autres ne sont guère que des variétés particulières. Ils reposent sur ce principe que le profane ne doit pas toucher le sacré. Déjà, nous avons vu qu'en aucun cas les Shuringa ou les Bell Rowers ne doivent être maniés par des non-initiés. Si les adultes en ont le libre usage, c'est que l'initiation leur a conféré un caractère sacré. Le sang, et tout particulièrement celui qui coule pendant l'initiation, a une vertu religieuse. Il est soumis au même interdit. Il en est de même des chevaux. Le mort est un être sacré, parce que l'âme qui animait le corps adhère au cadavre. Pour cette raison, il est parfois défendu de porter les ossements du mort autrement qu'enveloppés dans une feuille d'écorce. Le lieu même où s'est produit le décès doit être évité, car on croit que l'âme du défunt continue à y séjourner. C'est pourquoi on lève le camp et on le transporte à quelque distance. Dans certains cas, on le détruit avec tout ce qu'il contient, et un temps s'écoule avant qu'on puisse revenir au même endroit. Il arrive que, déjà, le mourant fait comme le vide autour de lui. On l'abandonne après l'avoir installé aussi confortablement que possible. Un contact exceptionnellement intime est celui qui résulte de l'absorption d'un aliment. De là vient l'interdiction de manger les animaux ou les végétaux sacrés, notamment ceux qui servent de totem. Un tel acte apparaît comme tellement sacrilège que la prohibition s'applique même aux adultes, ou tout au moins à la plupart d'entre eux. Seuls les vieillards atteignent une suffisante dignité religieuse pour n'être pas toujours soumis à cet interdit. On a parfois expliqué cette défense par la parenté mythique qui unit l'homme aux animaux dont ils portent le nom. Ils seraient protégés par le sentiment de sympathie qu'ils inspirent en qualité de parents. Mais ce qui montre bien que l'interdiction n'a pas pour origine une simple révolte du sentiment de solidarité domestique, c'est que la consommation de la chair prohibée passe pour déterminer automatiquement la maladie et la mort. C'est donc que des forces d'un autre genre sont en jeu, analogues à celles qui, dans toutes les religions, sont censées réagir contre les sacrilèges. Si, d'ailleurs, certains aliments sont interdits aux profanes parce qu'ils sont sacrés, d'autres, d'ailleurs, sont interdits parce que profanes aux personnes marquées d'un caractère sacré. Ainsi, il est fréquent que des animaux déterminés soient affectés spécialement à l'alimentation des femmes. Pour cette raison, on croit qu'ils participent de la nature féminine et, par conséquent, qu'ils sont profanes. Le jeune initié, au contraire, est soumis à un ensemble de rites d'une particulière gravité. Pour pouvoir lui communiquer les vertus qui lui permettront de pénétrer dans le monde des choses sacrées, d'où il était exclu jusqu'alors, on fait converger sur lui un faisceau exceptionnellement puissant de forces religieuses. Il se trouve donc dans un état de sainteté qui repousse au loin tout ce qui est profane. Aussi lui est-il défendu de manger du gibier qui est censé ressortir aux femmes. Mais le contact peut s'établir autrement que par le toucher. On est en relation avec une chose par cela seul qu'on la regarde. Le regard est une mise en rapport. C'est pourquoi la vue des choses sacrées est, dans certains cas, interdite aux profanes. La femme ne doit jamais voir les instruments du culte. Tout au plus lui est-il permis de les apercevoir de loin. Il en est de même des peintures totémiques, exécutées sur le corps des officiants à l'occasion de cérémonies particulièrement importantes. L'exceptionnelle solennité des rites d'initiation fait que, dans certaines tribus, les femmes ne peuvent même pas voir les lieux où ils ont été célébrés, ni le néophyte lui-même. Le caractère sacré qui est immanent à la cérémonie tout entière se retrouve naturellement dans la personne de ceux qui la dirigent ou qui y prennent une part quelconque. Il en résulte que le novice ne peut lever les yeux sur eux, et la défense survit même après que le rite est accompli. Le mort, lui aussi, est parfois soustrait au regard. Sa face est recouverte de manière à ce qu'elle ne puisse être vue. La parole est une autre façon d'entrer en relation avec les personnes ou avec les choses. Le souffle expiré établit la communication. C'est quelque chose de nous qui se répand au dehors. Aussi est-il interdit aux profanes d'adresser la parole aux êtres sacrés, ou simplement de parler en leur présence. De même que le néophyte ne doit regarder ni les opérateurs ni les assistants, il lui est défendu de converser avec eux, autrement que par des signes. Et cette interdiction persiste jusqu'à ce qu'elle ait été levée, au moyen d'un rite spécial. D'une manière générale, il y a chez les Arunta, au cours des grandes cérémonies, des moments où le silence est de rigueur. Dès que les Shuringa sont exposés, on se tait. Ou bien, si l'on parle, c'est à voix basse, et du bout des lèvres. En dehors des choses sacrées, il y a des mots, des sons qui ont le même caractère. Ils ne doivent ni se trouver sur les lèvres des profanes, ni frapper leurs oreilles. Il y a des chants rituels que les femmes ne doivent pas entendre, sous peine de mort. Elles peuvent percevoir le bruit des bull roarers, mais seulement à distance. Tout nom propre est considéré comme un élément essentiel de la personne qui le porte. Étroitement associé dans les esprits à l'idée de cette personne, il participe des sentiments qu'elle inspire. Si donc elle est sacrée, il est lui-même sacré. Aussi ne peut-il être prononcé au cours de la vie profane. Il y a chez les Waramunga un totem qui est particulièrement vénéré. C'est le serpent mythique appelé Wolunkwa. Son nom est tabou. Il en est de même de Bayam, de Daramulun, de Bunjil. La forme ésotérique de leur nom ne peut être révélée aux non-initiés. Pendant le deuil, le nom du mort ne doit pas être mentionné, au moins par ses parents. Sauf quand il y a absolue nécessité, et même dans ce cas, on doit se borner à le chuchoter. Cette interdiction est souvent perpétuelle pour la veuve et pour certains proches. Chez quelques peuples, elle s'étend même au-delà de la famille. Tous les individus qui portent le même nom que le défunt sont tenus d'en changer temporairement. Il y a plus, les parents et les intimes s'interdisent parfois certains mots de la langue usuelle, sans doute parce qu'ils étaient employés par le mort. On comble ces lacunes au moyen de périphrases ou d'emprunts faits à quelques dialectes étrangers. Outre leur nom public et vulgaire, les hommes en portent un autre qui est tenu secret. Les femmes et les enfants l'ignorent. Jamais il n'en est fait usage dans la vie ordinaire. C'est qu'il a un caractère religieux. Il y a même des cérémonies pendant lesquelles on est obligé de parler un langage spécial, dont il est défendu de se servir dans les relations profanes. C'est un commencement de langue sacrée. Non seulement les êtres sacrés sont séparés des profanes, mais rien de ce qui concerne, directement ou indirectement, la vie profane ne doit se mêler à la vie religieuse. Une nudité complète est souvent exigée de l'indigène comme une condition préalable pour qu'il puisse être admis à participer au rite. Il est tenu de se dépouiller de tous ses ornements habituels, même de ceux auxquels il tient le plus et dont il se sépare le moins volontiers, à cause des vertus protectrices qu'il leur attribue. Si, pour jouer son rôle rituel, il est obligé de se décorer, cette décoration doit être faite spécialement pour la circonstance. C'est un costume cérémoniel, un vêtement de fête. Parce que ces ornements sont sacrés en raison de l'usage qui en a été fait, il est interdit de s'en servir dans les relations profanes. Une fois que la cérémonie est close, on les enterre ou on les brûle. Les hommes doivent même se laver de manière à n'emporter sur eux aucune trace des décorations dont ils étaient revêtus. Plus généralement, les actes caractéristiques de la vie ordinaire sont interdits tandis que se déroulent ceux de la vie religieuse. L'acte de manger est, par lui-même, profane, car il a lieu tous les jours. Il satisfait de besoins essentiellement utilitaires et matériels. Il fait partie de notre existence vulgaire. C'est pourquoi il est prohibé en temps religieux. Ainsi, quand un groupe totémique a prêté ses shuringas à un clan étranger, c'est un moment tout à fait solennel que celui où ils sont rapportés et replacés dans l'Ertnatulunga. Tous ceux qui prennent part à la cérémonie doivent rester à jeun tant qu'elle dure, et elle dure longtemps. La même règle s'observe pendant la célébration des rites, dont il sera question au chapitre suivant, ainsi qu'à certains moments de l'initiation. Pour la même raison, toutes les occupations temporelles sont suspendues quand ont lieu les grandes solennités religieuses. Suivant une remarque de Spencer et Gillen que nous avons déjà eu l'occasion de citer, la vie de l'Australien est faite de deux parts très distinctes. L'une est employée à la chasse, à la pêche, à la guerre, l'autre est consacrée au culte, et ces deux formes d'activité s'excluent et se repoussent mutuellement. C'est sur ce principe que repose l'institution universelle du chômage religieux. Le caractère distinctif des jours de fête, dans toutes les religions connues, c'est l'arrêt du travail, la suspension de la vie publique et privée en tant qu'elle n'a pas d'objectif religieux. Ce repos n'est pas seulement une sorte de relâche temporaire que les hommes se seraient accordés pour pouvoir se livrer plus librement au sentiment d'allégresse qu'éveille généralement les jours fériés. Car il y a des fêtes tristes, consacrées au deuil et à la pénitence, et pendant lesquelles il n'est pas moins obligatoire. Mais c'est que le travail est la forme éminente de l'activité profane. Il n'a d'autre but apparent que de subvenir aux nécessités temporelles de la vie. Il ne nous met en rapport qu'avec des choses vulgaires. Au contraire, aux jours de fête, la vie religieuse atteint à un degré d'exceptionnelle intensité. Le contraste entre ces deux sortes d'existence est donc à ce moment particulièrement marqué. Par suite, elles ne peuvent voisiner. L'homme ne peut approcher intimement de son Dieu quand il porte encore sur lui les marques de sa vie profane. Inversement, il ne peut retourner à ses occupations usuelles alors que le rite vient de le sanctifier. Le chômage rituel n'est donc qu'un cas particulier de l'incompatibilité générale qui sépare le sacré du profane. C'est le résultat d'un interdit. Il ne saurait être question d'énumérer ici toutes les espèces d'interdits qui sont observés, même dans les seules religions australiennes. Comme la notion du sacré sur laquelle il repose, le système des interdits s'étend aux relations les plus diverses. On l'utilise même délibérément pour des fins utilitaires. Mais, si complexe qu'il puisse être, il vient finalement aboutir à deux interdictions fondamentales qui le résument et qui le dominent. En premier lieu, la vie religieuse et la vie profane ne peuvent coexister dans un même espace. Pour que la première puisse se développer, il faut donc lui aménager un emplacement spécial, d'où la seconde soit exclue. De là vient l'institution des temples et des sanctuaires. Ce sont des portions d'espace qui sont affectées aux choses et aux êtres sacrés et qui leur servent d'habitat, car ils ne peuvent s'établir sur le sol qu'à condition de se l'approprier totalement, dans un rayon déterminé. Ces sortes d'arrangements sont tellement indispensables à toute vie religieuse que les religions même les plus inférieures ne peuvent s'en passer. L'Ertnatulunga, cet endroit où sont déposés les Churingas, est un véritable sanctuaire. Aussi est-il interdit aux non-initiés de s'en approcher. Il est même défendu de s'y livrer à une occupation profane, quelle qu'elle soit. Nous verrons dans la suite qu'il existe d'autres lieux saints où se célèbrent d'importantes cérémonies. De même, la vie religieuse et la vie profane ne peuvent coexister dans les mêmes unités de temps. Il est donc nécessaire d'assigner à la première des jours ou des périodes déterminées d'où toutes les occupations profanes soient retirées. C'est ainsi qu'ont pris naissance les fêtes. Il n'est pas de religion, ni par conséquent de société, qui n'ait connu et pratiqué cette division du temps en deux parties tranchées, qui alternent l'une avec l'autre, suivant une loi variable avec les peuples et les civilisations. C'est même, très probablement, comme nous l'avons dit, la nécessité de cette alternance qui a amené les hommes à introduire dans la continuité et l'homogénéité de la durée des distinctions et des différenciations qu'elles ne comportent pas naturellement. Sans doute, il est à peu près impossible que la vie religieuse arrive jamais à se concentrer hermétiquement dans les milieux spatiaux et temporels qui lui sont ainsi attribués. Il est inévitable qu'il en filtre quelque peu au dehors. Il y a toujours des choses sacrées en dehors des sanctuaires. Il y a des rites qui peuvent être célébrés les jours ouvrables. Mais ce sont des choses sacrées de rang secondaire et des rites de moindre importance. La concentration reste la caractéristique dominante de cette organisation. Même, elle est généralement complète pour tout ce qui concerne le culte public, qui ne peut se célébrer qu'en commun. Le culte privé, individuel, est le seul qui vienne se mêler d'assez près à la vie temporelle. Aussi, le contraste entre ces deux phases successives de la vie humaine atteint-il son maximum d'intensité dans les sociétés inférieures, telles que sont les tribus australiennes, car c'est là que le culte individuel est le plus rudimentaire.